The Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec is filing a class action suit. If you were strip searched between July 13, 2006 and July 1, 2011, if you were in one of the following facilities, Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Roberval, Saint-Jérôme, or the male sector of Quebec City, you may be able to be part of this claim. For complete details, go to asrsq.ca/class action. That's asrsq.ca/class action. Claims must be filed before January 16th, 2022.
Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'$1 million seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Vous écoutez En jasant sur Wassipécouc, une émission de radio anticoloniale diffusée à chaque pleine lune, ici sur un territoire Mi'kma'ki et Wolastoqkup, au cœur de la Confédération Wabanaki. Wassipécouc, c'est le nom du peuple Wolastoqkup ici, sur la rive du fleuve Saint-Laurent, et c'est aussi une façon de nommer le fleuve en Wolastoqkup. Nous, on est des colons et colonnes basés à Trois-Pistoles qui ont envie de s'éduquer et braver ensemble notre passé et présent colonial pour rêver à une cohabitation saine et respectueuse et un futur anticolonial.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de l'émission podcast Tentative d'apprentissage en jasant sur Wassipégoug. Je suis Sonia Palato. Je vous parle aujourd'hui à partir de la ville de Trois-Pistoles, dans la province de Québec, au Canada. Cette délimitation administrative est située sur le territoire des Wolastoqkup et des Mi'kmaq. Alors que j'enregistre ceci, il vente fort, les nuages sont gorgés d'eau. Le sol reste pas sec très longtemps aujourd'hui. À quelques jours du solstice, les nuits sont très courtes. Il fait chaud de plus en plus souvent et ça sent le fleuve dans la pesanteur de l'atmosphère. Je prends le temps de vous mentionner ceci dans l'esprit d'une reconnaissance du territoire dans lequel je m'intègre dans le paysage. J'ai pris cette idée de Maya Ray Oppenheimer, une professeure en histoire de l'art à l'Université Concordia. Pour elle, c'est une façon de décoloniser son interaction avec le territoire, de se laisser imprégner par les cycles et les trajectoires de la vie qui nous entoure. Un rapport au monde qu'elle tente d'apprendre des savoirs autochtones. J'ai trouvé ça pertinent. Je me suis dit que j'essayerais. Qu'en pensez-vous? Ça m'amène à vous dire que tout ce qu'on fait dans cette émission, c'est des tentatives humbles et ouvertes. C'est fort probable qu'on se trompe, qu'on soit maladroite, qu'on ait des angles morts. On l'accepte, on l'assume. On veut vous entendre. On veut se remettre en question ensemble, avec compassion et rigueur. Écrivez-nous! L'émission d'aujourd'hui est mise en onde le 24 juin, jour de la fête nationale du Québec. On visait la pleine lune, mais on va prendre la coïncidence avec plaisir. On va commencer par vous présenter un tour d'horizon de l'actualité sur différents enjeux autochtones dans le Canada. Ensuite, on va entendre la rencontre d'Antoine avec Édith Bélanger, sorcière par sa mère, Wolastoqkup par son père, consultante en affaires autochtones, étudiante à l'UQAT, autrice et chroniqueuse à Espace autochtone chez Radio-Canada. Elles discuteront langue, culture, gouvernance et identité. L'entrevue sera ponctuée par un segment musical sélectionné par Kim, adepte du bruit, qui signe d'ailleurs l'ambiance sonore de notre émission. On terminera le tout avec un segment littéraire récité par la douce voix de votre hôte aujourd'hui. En ce jour de fête nationale, on vous invite et on s'invite à plonger le regard dans le colonialisme de notre réalité et à être ébranlé dans nos fondations. Commençons avec le segment actualité de l'épisode. Sachez que ce qu'on mentionne n'est qu'un aperçu de ce qui pourrait être nommé, faute de temps. Plus de détails sur chacune des nouvelles et d'autres nouvelles encore sont disponibles dans les show notes sur nos différentes plateformes. Le mois dernier, l'île de la Tortue au complet s'est réveillée avec de sombres nouvelles. 215 corps d'enfants non enregistrés ont été retrouvés, enfouis, près de l'ancien pensionnat autochtone de la région de Kamloops, en soi-disant Colombie-Britannique. Cette découverte macabre est un rappel et une preuve irréfutable du génocide que le gouvernement canadien a fait subir et fait encore subir aux peuples autochtones du soi-disant Canada. Des centaines de marches, de cérémonies et de manifestations ont eu lieu pour honorer la vie de ces enfants. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation dénombre 4100 enfants qui sont officiellement morts dans les pensionnats. Mais selon eux, les vrais chiffres seraient 5 à 10 fois plus élevés. Depuis, l'ONU ainsi que de multiples conseils de bande, individus et autres associations demandent au gouvernement que des fouilles aient lieu sur les 133 autres sites d'anciens pensionnats. Entre 1863 et 1996, au cours du régime des pensionnats autochtones, 150 000 enfants et 10 générations ont transité par ces établissements. Cette nouvelle a eu une répercussion énorme chez les communautés autochtones à travers l'île de la Tortue, ravivant des plaies récentes et douloureuses pour beaucoup. L'équipe de l'émission aimerait exprimer ses plus sincères condoléances et aimerait tenir une minute de silence pour honorer les vies de tous ces enfants arrachés de leur communauté dans ce plan macabre d'assimilation et de colonialisme. Une installation commémorative devant la cathédrale Saint-Germain à Rimouski a été installée pour honorer ses enfants. Le don de souliers y est toujours le bienvenu. En date du 19 juin 2021, les différents blocages du mouvement Fairy Creek Blockade sur le territoire Patchidat de l'île de Vancouver tenaient toujours, marquant leur 315e jour d'action directe contre l'exploitation des forêts anciennes et le 33e jour de l'application de l'injonction par la police et la GRC. À cette date, 246 personnes se sont fait arrêter. Le 1er avril dernier, la compagnie forestière Teal Jones a reçu l'autorisation de la Cour pour imposer une injonction qui touche toute personne bloquant l'accès à la forêt et aux travailleurs. Le conseil de bande de la Première Nation Patchidat a publié une lettre officielle demandant le retrait des blocages et des actions directes. Celle-ci avait signé une entente en 2017 avec les forestières pour les coupes visées par les blocages. Lors d'une entrevue téléphonique avec CBC News le 7 juin, Bill Jones, un aîné de la nation, a déclaré qu'il avait invité les manifestants sur le territoire et que le chef élu ne parle pas au nom de tous les Patchidat. Depuis l'automne 2019, les communautés Anishinaabe algonquine de Lac-Barrière et de Kitiganzibi demandent un moratoire sur la chasse sportive de l'orignal dans la région du parc La Vérendrye. Suite à des négociations l'hiver dernier, le ministère et des représentants des différentes communautés Anishinaabe ont signé une entente en début juin qui s'échelonne sur 4 ans et comporte un moratoire de chasse pour les 2 prochaines années. Une réintroduction de la chasse est planifiée pour revenir à la normale à la quatrième année. La première nation Mi'kmaq de Listigouge entreprend une action légale à la Cour fédérale revendiquant leur droit à la pêche au homard. En septembre 2019, le département des pêches et océans leur a retiré leur droit de vente commerciale. La vente de homards demeure à ce jour interdite alors que le traité de 1752 octroie ce droit ancestral à la nation. Depuis septembre, dans le county de Guysborough en Nouvelle-Écosse, la compagnie Pieri Dey Energy pousse un projet d'usine de gaz naturel liquéfié qui inclut un man camp de 5000 travailleurs. Plusieurs femmes Mi'kmaq ont témoigné leur mécontentement suite à cette décision et affirmé qu'elles n'avaient pas été consultées ou mises au courant de cette affaire. Elles sont préoccupées par le danger de l'apparition d'un man camp sur leur territoire et de l'évidence du lien entre ceux-ci et le nombre alarmant de femmes et filles autochtones disparues et assassinées. La commission d'enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan, qui vise à mettre en lumière les circonstances de la négligence ayant mené à son décès, s'est terminée au début du mois. Au fil des témoignages, il apparaissait évident que les préjugés socio-économiques et raciaux qu'ont eu certains employés à l'égard de cette femme atikamekw de 27 ans ont fait en sorte de lui accorder un traitement et des soins discriminatoires. Le gouvernement caquiste n'a toujours pas adopté le principe de Joyce visant à reconnaître l'existence du racisme systémique au soi-disant Québec et à assurer aux peuples autochtones un accès égalitaire aux services de santé et aux services sociaux. Le 3 juin dernier, le Comité sénatorial des droits de la personne publiait un rapport consternant faisant état de la pratique continue de stérilisation forcée chez les femmes autochtones au soi-disant Canada. Les recherches du comité ont révélé des cas aussi récents que 2019. Les femmes provenant des communautés éloignées arrivent souvent au centre de soins de santé dans un état vulnérable à l'issue d'un long trajet. Isolées de leur famille et de leurs amis, elles ne comprennent parfois pas bien la langue et n'ont souvent pas accès aux informations adéquates pour bien comprendre leurs droits, leurs options et leurs recours en contexte hospitalier. Selon les témoignages recueillis, il arrive qu'elle se fasse carrément imposer un passage à la salle d'opération pour subir une stérilisation non consentie alors qu'elles étaient venues pour un accouchement ou pour un problème de santé. La stérilisation forcée demeure largement cachée et sous-documentée au pays. À l'occasion du mois national de l'histoire autochtone au soi-disant Canada, de nombreuses initiatives de sensibilisation et de visibilité se sont succédées récemment. Notamment, l'autrice et poétesse inoue Marie-Andrée Gill, en collaboration avec la librairie Anénorak, située à Wendake, ont lancé la campagne #JeLisAutochtone pour inviter à la sensibilisation et au dialogue entre cultures. Pour sa part, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, propose de dédier ce mois aux enfants autochtones. Dans une lettre ouverte adressée à Radio-Canada, il souligne le besoin de reconnaître la terreur continue que vivent encore les familles autochtones de nos jours. Entre les séquelles traumatiques du passé et les dédales injustes du système actuel de protection de la jeunesse. Le troisième album de Mike Paul est maintenant disponible. Nominé au prix de Music Folk canadien 2020 et au Indigenous Music Awards 2019, il est auteur, compositeur et interprète Innu de Mastoyach et aussi un Land Defender Innu, membre du collectif Mashk Asi. Sorti le 18 juin dernier, Ashwap Mushwan, là où on guette l'orignal en Innu, est un album trilingue, anglais, français et Innu, qui s'accorde sur des arrangements country, folk rock et traditionnels. Ce magnifique album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. La Première Nation Wolastoqiyik Wasibeguk, anciennement appelée Première Nation Malécite de Vigée, a inauguré le 16 juin dernier son projet de valorisation de l'identité Wolastoqiyik au parc côtier Kiskoduk, qui s'étend de Kakuna à l'île verte. Ce projet comprend notamment l'ajout de nouvelles infrastructures comme une agora, un aire de feu couverte, un chapoutouane et des wigwams. Des activités d'interprétation, dont des soirées de contes et légendes traditionnelles Wolastoqiyik, y seront présentées cet été. Alors passons maintenant à l'entrevue avec Antoine et Edith Bélanger.
Donc, bonjour, bonsoir, je m'appelle Antoine et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la toute première entrevue de notre émission En jasant sur Wassipegoug. Chaque pleine lune, on aura la chance de vous présenter une nouvelle entrevue avec des personnes autochtones de différentes nations et communautés impliquées dans leur milieu, qui sont assez patients et patientes pour nous aider à mieux comprendre les multiples réalités autochtones et pour rêver ensemble d'un futur anticolonial. En cette pleine lune de juin, adossée au solstice d'été, nous avons la chance ce soir de recevoir sur les ondes Edith Bélanger, chroniqueuse à Espace autochtone à Radio-Canada, écrivaine, travailleuse autonome, maman, étudiante au deuxième cycle à l'UQAT en études autochtones, diplômée en philosophie et consultante en affaires autochtones, Edith Bélanger porte plusieurs chapeaux. Membre de la nation Olastegig Wassipegoug, elle a accepté de prendre de son précieux temps pour nous parler ce soir d'identité, de territoire et de la langue. Oui, bonjour Edith, bienvenue à l'émission.
Oui. Mais d'abord, bienvenue à tous et à toutes. Je voulais juste préciser que ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Je suis là à mon nom personnel seulement, donc ce que je veux dire n'engage que moi.
Parfait, c'est dûment noté. Merci beaucoup d'être là. Donc, Edith, vous êtes membre de la nation Olastegig Wassipegoug, anciennement connue sous le nom de la nation Malécé-de-Vigée. Pourriez-vous nous parler de votre nation, de votre appartenance, de la réalité d'être une femme Olastegig dans l'est du so-called Québec?
Ça va être avec plaisir. D'abord, nous, la communauté Wassipegoug, on est une des 8 communautés de la grande nation Olastegig. Donc, on est la seule communauté qui se situe sur le territoire du Québec, entre parenthèses, comme tu l'as dit. Les 7 autres communautés de la nation, il y en a 6 au Nouveau-Brunswick et une aux États-Unis, dans l'État du Maine. Donc, c'est vraiment une grande nation qui s'étend là, d'un territoire qui part du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la baie de Fundy. Notre communauté, à nous, elle a été particulièrement touchée par le colonialisme. On a vraiment été forcés à la dispersion à cause des tactiques coloniales avec la complicité du clergé aussi. Pendant une centaine d'années, finalement, on était pratiquement tombés dans l'oubli aux yeux des Québécois et des Québécoises en général. En 1985, l'Assemblée nationale du Québec a fait une motion pour reconnaître les nations autochtones et les principes qui devait guider la relation avec les Premières Nations. Et on parlait de 10 nations autochtones, incluant les Inuits. Donc, il en manquait une, c'était nous. Donc, c'est une particularité. Et parfois même, je remets juste à dire que des fois, on a presque à justifier qu'on est autochtone aux yeux de certains là, qui nous trouvent peut-être pas assez de ceci ou pas assez de cela. Et il y a eu un acharnement sur notre communauté. Ça, c'est important de le savoir. On a beaucoup parlé d'Hector-Louis Langevin dernièrement, qui a été le premier secrétaire d'État aux affaires indiennes, comme on disait à l'époque. Et lui, odieux personnage qui était derrière tout le montage des pensionnats indiens, a été aussi la personne qui a orchestré la dépossession de nos terres qu'on avait dans le canton de Vigée et qui nous a forcés justement à se disperser à la fin des années 1800. Et puis, Hector-Louis Langevin, lui, il a eu le support de ses deux frères, qui étaient deux frères très puissants, un qui était le vicaire et l'autre qui était l'évêque de Rimouski. Ils avaient tous les outils pour arriver à leur fin.
C'est assez clair.
Oui, effectivement. Donc, quand on parle de collusion entre l'Église et l'État, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que celui-là.
Bien, l'histoire de la dépossession de votre nation est souvent mal comprise, peu discutée chez les Allochtones. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce territoire-là? Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec la réserve de Vigée, en fait?
Mm-hmm. Oui. Bien, le territoire, c'est la bonne façon d'aborder la question de la réserve. C'est vraiment le meilleur angle. Parce que le territoire, le Wolastoguk, on peut le voir de la façon suivante. Là. La rivière Wolastoguk, qui a été renommée la rivière Saint-Jean par Champlain, C'est un peu comme la colonne vertébrale du Wollastoocook. Et on ajoute à ça tous les affluents et tous les portages qui permettent de circuler sur cette interface-là. Une des premières choses qu'il faut décoloniser, c'est notre vision du territoire. Parce que nous, on est tous, là, ben, je m'inclus là-dedans, hein, on a tous vu des cartes. Mais nos ancêtres étaient incapables de voir le territoire de cette façon-là parce qu'ils ne volaient pas à ailes d'oiseaux. Là. Donc, eux voyaient le territoire à partir des cours d'eau, principalement. Donc, même, il y a des anthropologues qui ont travaillé sur la nation Wollastoocook, puis ils ont même introduit des concepts, au lieu de landscape, qui est paysage, ils utilisent waterscape. Donc, le Wollastoocook, grosso modo, hein, l'espace habité, l'espace de vie, bon, évidemment, on inclut là, le fleuve Saint-Laurent comme tel, là, qui est un réservoir de ressources incroyables avec ses îles et tout ça. On va à peu près jusque dans la région de Lévis. Lévis, où on trouve une rivière très importante qui s'appelle la rivière Etchemin. Donc, c'est vraiment un espace c'est une rivière qui était fréquentée, qui permettait de connecter le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Lévis jusqu'à la baie de Fundy. Donc, ça, c'est la frontière ouest, à peu près. J'aime pas le mot frontière, mais je vais le dire pareil, là, pour les fins de compréhension. Puis, vers l'est, on va se retrouver à peu près dans les environs de Matane, environ. Puis, si on peut descendre, enfin, on tire, vous imaginez une espèce de colonne, là, qui descend du nord au sud, jusqu'en bas, jusqu'à la baie de Fundy, dans le fond, jusqu'à l'embouchure de la Wollastoocook. Tout ça, c'est souvent représenté dans notre tradition orale sous la forme d'un arbre. D'ailleurs, il y a une légende qui raconte bien ça. Si ça vous intéresse d'aller voir, il y a un petit court-métrage qui a été fait même sur Wapikoni Mobile. Ça s'appelle « L'origine de la Wollastoocook ». Quand on comprend comment est faite le Wollastoocook du nord au sud de façon ininterrompue, là, en faisant fi des frontières coloniales, on comprend que ce que nos ancêtres ont demandé, parce que la réserve de Vigée n'est pas issue des politiques de mise en réserve. Elle a été octroyée, c'est un établissement indien qui a été octroyé à la demande de nos chefs en 1827. Ça, c'est particulier, donc ça avait une fonction, évidemment, une fonction de permettre aux gens de pratiquer l'agriculture de soutien, fonction de permettre un endroit de rassemblement pour la bande, entre parenthèses, là. Et puis aussi une fonction, je dirais, géopolitique, de sécuriser l'accès au Wollastoocook. Donc, dès 1827, là, cet endroit-là, nos ancêtres le percevaient comme leur propriété. Donc, c'était sur un territoire non cédé et ils avaient un titre pour attester que cet établissement-là leur appartenait. Le Bas-Saint-Laurent a fini par se peupler à bon train. Et puis, les terres de l'établissement de Vigée étaient très fertiles et c'était pas mal les meilleures de la région. Évidemment, si on se replace dans la mentalité de l'époque, pour nos ancêtres en 1830, en 1850, c'était impensable de tout mettre les œufs dans le même panier et de se consacrer uniquement à l'agriculture avec les aléas qu'on connaît, les gels, les insectes, bon, tout ce qui peut arriver à une récolte, alors qu'on a le savoir pour trapper, on a le savoir pour pêcher, on a le savoir pour chasser, pour cueillir. Donc, c'était la bonne décision, était de poursuivre le mode de vie traditionnel, semi-nomade, puis d'aller chercher un complément avec l'agriculture seulement. Donc, sur la réserve de Vigée, les gens ont défriché uniquement ce qu'ils avaient besoin, laissé du bois pour les animaux, laissé du bois pour les canaux, laissé du bois pour les paniers. Mais, les colons euro-canadiens étaient intéressés par le bois qu'il y avait sur la réserve, étaient intéressés à défricher ça pour mettre la main, diviser ça en lots, cultiver. Donc, il y a eu énormément de pression. Puis, le mode de vie que nos ancêtres ont tenté de maintenir, un mode de vie semi-nomade, ça dérangeait énormément les gens. Puis, entre autres, l'évêque de Rimouski, qui était le frère de notre ami Langevin, lui, il l'a dit très clairement, puis j'utilise souvent cette citation-là pour faire comprendre à quel point il y avait une tension entre les Euro-Canadiens et les Wolastoqiyik. Il a dit ce sont en un mot que des vagabonds et des vauriens.
Oh Seigneur! Ça fait
d'allure. Donc, on comprend que il y avait une tension. On ne voulait pas nous voir là. On ne voulait pas que les gens se promènent. On dérangeait. Et en tout cas, à tout le moins, il y a vraiment eu là, des manœuvres, des manigances pour faire en sorte que la réserve soit reprise par le gouvernement et vendue aux colons, aux enchères. Ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque-là, c'était l'inverse que le gouvernement essayait de faire. À l'époque, en 1870, au moment où la réserve a été vendue, le gouvernement, il cherchait plutôt à pousser à réserver les Indiens dans des établissements, dans des réserves. Quand on consulte les archives, on s'aperçoit que rapidement, les autorités se sont rendues compte que c'était pas une bonne affaire, là, parce que personne voulait des Indiens vagabonds. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une autre terre de réserve qui s'appelle Kadaskomik, qui s'appelait avant Whitworth. Ça, c'était une des tentatives du gouvernement qui disait « Bon, là, ça marche pas. J'ai des Wolastoqiyik qui traînent partout, qui campent partout. On n'est pas capable de contrôler cette population-là parce qu'on est quand même... c'est ça, là, les politiques autochtones canadiennes, c'est des politiques de contrôle et d'assimilation. Et là, il y a eu un nouvel essai. Donc, d'acheter ce territoire-là, de créer une nouvelle réserve, qui est encore aujourd'hui une terre de réserve. Mais c'était un endroit, puis ça a été clairement dit par les agents du gouvernement que on choisissait Kadaskomik, Whitworth, parce qu'à cet endroit-là, les Malécites, comme on les appelait à l'époque, ne dérangeraient pas les bons Canadiens. Et c'était formulé comme ça. Alors que c'est impossible de pratiquer l'agriculture à cet endroit-là. C'est couvert de roches. Il n'y a pas de cours d'eau. Il n'y a rien là qui correspond au mode de vie des Wolastoqiyik là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a renommé Kadaskomik. Kadaskomik, ça veut dire un endroit désolé, un endroit désertique.
J'ai entendu une entrevue avec Jacques Tremblay qui parle un peu de la réserve, du bout de terre proche du port de Kakuna, qui dit que, dans le fond, le building du Band Council est sur la terre, mais le parking ne l'est pas, pour parler à quel point c'est un petit lot.
Ça, c'était la seconde tentative de relocalisation et de resédentarisation, Kakuna. C'est un territoire qui était occupé depuis des millénaires. Et puis, en fait, nos ancêtres demandaient à se faire sécuriser un espace là, parce qu'ils devaient vivre énormément de violence parce qu'ils étaient nulle part chez eux. Puis le gouvernement, plutôt que d'acheter un lot conséquent, on se retrouve avec l'achat de la plus petite réserve indienne au Canada, qui est même pas capable de loger quatre pauvres petites cabanes.
Puis aujourd'hui, pour votre rapport au territoire, votre rapport à retrouver votre communauté qui, depuis les années 80, s'est faite reconnaître de par votre travail aux yeux du gouvernement fédéral comme la 11e Première Nation, comment vous parvenez à vous réunir puis à retisser ce lien-là avec le territoire ces jours-ci?
Je vais juste ajouter une petite précision parce que le Canada, on n'a pas eu besoin de faire valoir notre reconnaissance auprès du Canada.
OK.
Parce que la bande 054, Malécite de Vigée, elle existait toujours. La reconnaissance est venue au niveau du provincial. C'est la province de Québec qui n'était pas au courant qu'on était là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait plus de structure politique. Et puis, être régi sous la loi sur les Indiens, ça implique aussi que la structure politique, c'est celle de la loi sur les Indiens. Donc, c'est la structure du conseil de bande. Donc, au niveau fédéral, il a fallu, en 1987, recréer un conseil de bande. Et puis là, est reparti un processus d'émission des cartes de statut d'Indien à ceux qui n'en avaient pas ou aux gens qui naissaient. En fait, c'est ça, là. C'est... Le fait de recréer un conseil de bande. Ça permet de recréer des activités communautaires, puis ça permet à un sentiment d'appartenance de réémerger. Puis avant 87, les gens se cachaient plus que d'autres choses. Il n'y avait aucun endroit, il n'y avait aucun moment où les gens pouvaient dire « Je suis membre de la bande de Vigée ». Personne ne disait ça, là. Donc, ça a permis aux gens de se réaffirmer. Le sentiment d'appartenance a été vraiment érodé. C'est vraiment un long chemin là, de retrouver, premièrement, la fierté. Souvent, il y a beaucoup de gens de notre communauté qui se sont fait dire qu'il ne fallait pas parler de son identité autochtone. C'était presque honteux. Donc, déjà, de se débarrasser de ça pour aller plus vers une fierté, c'est pas facile pour tout le monde. Puis, au niveau communautaire, les gens se connaissent pas ou peu, ce qui crée une espèce de méfiance entre les gens, entre les différentes familles. C'est pas facile, mais sans la reconnaissance, sans la structure du conseil de bande, y a rien de tout ça qui était possible. Là. Ça a été l'étape déclencheur pour que les gens recommencent à se fréquenter, recommencent à avoir des projets communs, recommencent à envisager un avenir collectif aussi.
Puis dans ce parcours-là, donc de cette appartenance-là, de cet avenir collectif-là, est-ce que vous avez des espoirs ou des objectifs en tête ou quelque chose que vous aimeriez voir dans les prochains temps qui pourrait participer à cette décolonisation-là du territoire puis ce parcours collectif-là?
Oui, déjà, je trouve qu'on est quand même bien parti parce qu'on parle de nous beaucoup plus que c'était le cas il y a 20 ans, par exemple, ou même il y a juste 10 ans. Moi, j'aimerais voir beaucoup plus d'endroits où qu'on discute, que les gens puissent se réunir aussi, hein, parce que la réserve Kakuna est très petite, là. Puis j'aimerais beaucoup qu'on puisse développer collectivement des activités pour les plus jeunes. Parce que c'est certain que le processus de réappropriation identitaire et culturelle, elle a passé surtout par les personnes plus âgées. Et c'est normal, hein, parce que c'est des personnes plus âgées qui étaient à l'origine de la reconstruction de la nation. Mais maintenant, il faut que ça descende dans les générations suivantes, là. Si on pouvait amener les enfants pour une longue fin de semaine. Ça, c'est le genre de choses que j'aimerais voir. Puis j'ai espoir qu'on va être capable de le faire, hein, d'ailleurs.
Ah oui, ça sonne comme des vraiment bonnes idées, en fait, ouais, l'intergénérationnalité de ce parcours-là aussi. Vous avez aussi travaillé beaucoup pour ce parcours-là avec la langue. Donc, c'est ça, en ligne, on peut trouver donc un site incroyable que vous avez aidé à construire. Je vais tenter de le prononcer. Excusez-moi pour la prononciation. Wolastoqewagu, parlons maintenant. un outil de traduction trilingue anglais-français, Wolastoqewagu, qui permet entre autres d'entendre plusieurs personnes prononcer les mots en Wolastoqewagu. Puis vraiment, bravo, c'est un merveilleux projet que j'ai beaucoup navigué dans les derniers jours. Pourriez-vous nous raconter cette aventure-là? Puis si vous avez des commentaires sur la prononciation aussi, n'hésitez pas.
Moi, bravo pour l'effort. C'est bien.
Merci.
Le site Wolastoqewagu, c'est un projet, là, c'était juste du plaisir. En fait, c'est parti de rien, ce projet-là. Au Nouveau-Brunswick, j'ai rencontré une fois un enseignant de la langue Wolastoqewagu. Puis là, moi, j'ai dit, moi, je suis pas d'une communauté du Nouveau-Brunswick, mais j'aimerais vraiment ça l'apprendre. Puis là, il m'a dit, mais là, on est rendu au mois de février, là, ça finit au mois de mai, la session. J'ai dit, c'est pas grave, j'apprends vite, je veux y aller. Puis il a accepté de m'intégrer dans ce cours-là. Et puis, à la fin de ce niveau-là, le niveau débutant, il fallait faire un projet d'intégration. Moi, j'avais spontanément, là, je m'étais dit, wow, OK, on a besoin de se réapproprier cette langue-là le plus possible. Donc, j'ai fait C'est un PowerPoint, finalement, trilingue, qui reprenait des éléments essentiels. Je suis allée voir un chef conseiller avec ça, puis j'ai dit, ben tiens, je vous le donne, c'est mon projet, c'est mon cadeau. Puis là, il s'est gratté la tête un peu, il m'a regardé, il a dit, mais là, c'est bon ça? Faut faire de quoi avec ça? Faut faire de quoi? Donc là, lui est parti, il est allé chercher du financement de l'Université du Québec à Chicoutimi, financement de Patrimoine Canada. Fait qu'on a tout mis ça ensemble. On a tout foulé les ressources ensemble. C'était au départ la volonté que j'avais, c'était de décoincer les gens pour qu'ils osent faire des phrases complètes, pour essayer d'éliminer un peu là, l'espèce de barrière psychologique là, qui est légitime, là, parce que c'est pas une langue facile pour des locuteurs du français ou de l'anglais. Là. Et puis, c'est des modules de conversation, des phrases complètes. Puis, c'est vraiment moins pire que ça en a l'air. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est faut pas trop le lire, faut l'écouter. C'est pour ça que j'ai voulu enregistrer absolument toutes les phrases. Et puis, les mots du dictionnaire, je voulais que 3 personnes différentes les disent aussi.
Donc, la réalité aujourd'hui de la langue, est-ce qu'elle est portée ici, dans votre communauté Wassipego?
Ce qui est super, là, c'est que si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, j'aurais dit « elle est morte
». Oh là là, oui.
Ouais. Mais là, je peux pas dire ça, parce que j'ai pas été la première, moi, à aller au Nouveau-Brunswick pour apprendre au Lostogway. Il y en a eu d'autres avant moi, des jeunes. Puis, il continue à en avoir. Là, avec les outils qu'on a développés, ça donne un plus. Ce printemps, il y a eu un premier groupe en ligne d'apprenants de la communauté, un groupe d'études de langue. Ça, c'est génial. Je me pouvais-tu?
Super.
Puis,
ben oui.
Ce qui est encore plus génial, c'est que les deux enseignants de ce prof-là, c'est 2 jeunes de notre communauté qui sont allés passer 2 ans au Nouveau-Brunswick pour apprendre la langue. Wow. C'est super, là. Fait que, donc, tout ça, là, c'est passé dans les dernières années, là, dans le fond, dans les 3-4 dernières années. Il y a un engouement, puis tant mieux, parce que là, j'ai espoir. Puis quand... maintenant, là, toutes les communications là, de la Première Nation, il y a toujours des mots en Wolastoqway dedans. C'est pas grand-chose, là, mais c'est important, là.
Ben oui, puis votre travail que vous avez fait avec cet outil-là en ligne nourrit les espoirs des autres, en fait, aussi. C'est assuré.
Oui, puis moi, je trouvais intéressant aussi parce que ça nous permet de nous rapprocher des autres communautés Wolastoqway. La plupart des communautés Wolastoqway sont unilingues anglophones ou parlent Wolastoqway comme langue première, ensuite comme langue seconde, l'anglais. Nous, de notre côté, il n'y en a pas tant. Les jeunes sont de plus en plus bilingues, mais dans les générations précédentes, c'était une langue francophone. Donc, le fait de faire un site trilingue, c'est utile aussi pour les jeunes au Nouveau-Brunswick puis les jeunes au Maine. Donc, c'est pour tout le monde. Ce qui devait être pour ma communauté, finalement, a servi à tout le monde, puis ça sert un peu d'un lieu de rapprochement, d'échange.
Incroyable, incroyable. C'est le pont vers la Wolastoq.
Oui,
oui, oui.
Allô tout le monde. Ben, bienvenue dans ce segment musical de notre première édition de En jasant sur Wassipécouk. On va écouter aujourd'hui 3 pièces. On va commencer par une pièce qui se retrouve sur le plus récent album de Leanne Bejasamosei Simpson, artiste et écrivaine Michisaki Kanishinaabe, son album qui s'appelle Theory of Ice. Donc on va écouter sa reprise de la chanson I Pity the Country de Willie Dunn. Ça va être suivi de My Country It Is of Thy People You're Dying de Buffy Sainte-Marie, chanteuse Cree, qui a célébré son 80e anniversaire cet hiver et dont les textes comme celui-ci, datant de 1966, sont aussi pertinents que jamais. Puis on va terminer le segment avec une pièce de Anacnide, qui est une artiste multidisciplinaire au J'écris, basée à Montréal. La pièce, c'est America, avec un featuring du rappeur OG Le Cri. Ça vient de son premier album intitulé Dreamweaver. Bonne écoute.
The saving of soul men. Tinkering. big eyes are finally opened. Now that you're wondering how must they feel, meaning them that you've chased across America's movie screens. Now that you're wondering how can it be real that the ones you've called colorful, noble, and proud in your school propaganda, they starve in their splendor. You've asked for my comment, I simply will render. My country, 'tis of thy people you're dying. Superstition, you force us to send our toddlers away to your schools where they're taught to despise their traditions, forbid them their languages, then further say that American history really began when Columbus set sail out of Europe, and stress that the nation of leeches that's conquered this land are the biggest and bravest and boldest and best. And yet where in your history books is the tale of the genocide basic to this country's birth, of the preachers who lied, how the Bill of Rights failed, how a nation of patriots return to their earth, and where will it tell of the Liberty Bell as it rang with a thud over Kins or mud, and a brave Uncle Sam in Alaska this year. My country, 'tis of thy people you're dying. The West with her shivering children in 0 degrees. Blankets for your land, so the treaties attest. Oh, well, blankets for land is a bargain indeed. And the blankets were those Uncle Sam had collected from smallpox disease, dying soldiers that day, and the tribes were wiped out, and the history books censored. 100 years of your statesmen have felt it's better this way, yet a few of the conquered have somehow survived. Their blood runs the redder, though genes have been paled, from the Grand Canyon's caverns to craven sad hills. The wounded, the losers, the robbed sing their tale, from Los Angeles County to upstate New York. The white nation fattens while others grow lean. Oh, the tricked and evicted, they know what I mean. My country, 'tis of thy people you're dying. The past, it just crumbled. The future just threatens. Our lifeblood shut up in your chemical tanks. And now here you come, bill of sale in your hand, and surprise in your eyes that we're lacking in thanks for the blessings of civilization you've brought us, the lessons you've taught us, the ruin you brought us. Oh, see what our trust in America's bought us. My country, 'tis of thy people you're dying. Now that the pride of the sires receives charity, and safe behind laws. Now that my life's to be known as your heritage, now that even the graves have been robbed, now that our own chosen way is a novelty, hands on our hearts, we salute you, your victory. Choke on your blue, white, and scarlet hypocrisy, pitying the blindness that you've never seen, that the eagles of war whose wings lent you glory, they were never no more than carrion crows. Pushed the wrens from their nest, stole their eggs, changed their story. The mockingbird sings it, it's all that she knows. Ah, what can I do? Say a powerless few with a lump in your throat and a tear in your eye. Can't you see that their poverty's profiting you? My country, 'tis of thy people you're dying.
When I swerve it, cruising really fast through the traffic.
Super fast.
Zoom. Yeah, watch them panic. I need the bread, I need the bannock. Stacking cheese to the moon. Wallace and Gromit.
Yeah.
They really thought we lost. Forgot that we helped them walk. Couldn't really kill us, couldn't subdue us. Gonna need digger pucks.
Vous avez publié dans la dernière année votre tout premier livre. J'aimerais vous féliciter. C'est un exploit vraiment chouette. Le livre s'appelle « Les arbres murmurent notre histoire » que vous avez publié chez les éditions Plume d'Oie. C'est un recueil de 7 histoires inspirées du folklore Wolastoguin. Pourriez-vous nous parler un peu du processus d'écriture derrière ce livre-là?
Quand j'étais petite, moi, c'est ma grand-mère paternelle qui... aimait bien ça raconter des histoires. Puis, je lui posais toujours des questions. Puis, des fois, elle me racontait des histoires, puis j'étais pas certaine que c'était vrai. qu'elle me racontait. J'avais presque l'impression d'être en face de des légendes en train de se construire, parce que c'était des personnages presque mythiques avec des exploits. Là, moi, ces histoires-là, ils ont toujours resté avec moi, puis on dirait que plus je me suis intéressée à la culture Wolastoqué, puis aux autres histoires de la tradition orale, aux autres histoires des autres nations autochtones, j'ai réalisé que j'avais un trésor là, qui était là, là, dans mon cerveau. Puis qu'il ne fallait pas que ces histoires-là ils meurent. Moi, je me trouve très chanceuse d'avoir été dépositaire de ces histoires-là. Ma grand-mère est décédée aujourd'hui. J'ai décidé de les écrire. Donc, j'en ai rassemblé 7. Puis, je les ai à peine transformés, là, pour, des fois, pour ajuster un peu le récit, là, pour que ça soit plus fluide. Mais c'est vraiment des histoires que ma grand-mère me racontait. Puis, ils ont vraiment tout un lien avec l'identité Wolastoqué, puis le territoire aussi. Donc, ça a été vraiment un beau projet pour moi de me replonger là-dedans. De replonger dans mes souvenirs, puis des fois de valider avec des gens de la famille élargie, entre autres avec un grand-oncle. Là. J'avais demandé mon oncle Denis, toi, ça te dit quelque chose? Il dit ben oui, il s'est fait attaquer par un ours, puis il l'a tué à main nue.
Wow!
Donc, celle-là, ça a l'air qu'elle est vraie.
Wow! Est-ce que ça vous arrive de raconter de ces histoires-là oralement?
Oui. J'aime bien conter, puis j'aime bien la façon dont nos ancêtres comptent les histoires aussi. C'est pas comme à la Fred Pellerin. C'est vraiment plus... C'est beaucoup plus lent comme débit, c'est beaucoup plus intime comme histoire, comme façon de raconter. Puis... J'aime bien ça faire ça. Ça m'arrive de temps à autre. L'année passée, j'avais fait justement le festival des Grandes Gueules à Trois Pistoles.
Oui!
Ouais.
Oui.
Donc, j'étais venue raconter deux ou trois histoires là-bas. Puis j'aime toujours ça, hein, partager.
Lorsqu'on a brainstormé notre émission, le nom de l'émission de radio, on a longuement hésité avant d'adopter le nom En jasant sur Wassipégoug. Selon votre outil linguistique en ligne, Wassipégoug, c'est le Saint-Laurent. C'est dans le nom de votre nation aussi.
Mm-hmm.
Puis, je me demande si c'était possible pour vous d'en dire un peu plus sur le terme spécifique de Wassipégoug.
Oui, puis c'est vraiment important de le faire parce que la reprise de notre nom traditionnel, c'est une manière hein, de décoloniser notre histoire, notre identité. Parce que Vigée, c'est le nom d'un avocat de député de Montréal qui a sûrement jamais mis les pieds sur notre territoire, puis encore moins jamais rencontré personne de notre nation. Donc, ça n'avait rien à voir avec notre identité. Donc, Wassipégoug, c'est une référence au Saint-Laurent. Donc, c'est pas le fleuve Saint-Laurent. Je m'explique. C'est que la langue Wolastoqué, comme les autres langues algonquiennes, c'est des langues à particules. Donc, on fonctionne avec une racine, puis là, on vient ajouter préfixe, suffixe pour faire du sens, faire un mot plus long, qui est un concept, en fait. Et ce concept-là, Wassipégoug, on peut le diviser en trois. Wassi qui veut dire au-delà de, là-bas, au-delà d'une frontière. Dans ce cas-ci, si on se place du point de vue des autres communautés de la nation, nous, on est de l'autre côté des Appalaches, de l'autre côté des montagnes, l'autre côté des portages. Donc, Wassi réfère à ça. Bec, ça réfère à de l'eau. Québec, puis Zoubec, c'est l'océan. On parle d'une grande étendue d'eau. Là. Puis Gouk, c'est un locatif. Donc, on parle d'un... C'est là, c'est un lieu. Fait que c'est là-bas, proche d'où ce qu'il y a de la grande eau, par-dessus les montagnes, par-dessus les portages. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire par « on réfère au fleuve Saint-Laurent ». Mais
c'est pas le fleuve Saint-Laurent, c'est une référence, c'est un concept. Je comprends, oui, OK.
C'est comme ça. C'est comme ça que nos ancêtres voient les choses. Ils décrivent ce qu'ils voient, ils décrivent la fonction, ils décrivent le lieu. Donc, Wasibegook, c'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on était désigné aussi quand les autres personnes de la nation, les autres communautés parlaient de nous, ils référaient à nous de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que moi, je vais te dire honnêtement, quand j'ai vu le nom du podcast, j'ai trouvé ça étrange. Puis, je sais pas, je suis pas convaincue que les gens de la communauté seraient pleinement à l'aise avec ça.
Mm-hmm.
Parce que ça réfère, mm-hmm. tu sais, oui, ça réfère au fleuve Saint-Laurent, mais ça réfère vraiment à nous. Puis, aussi, c'est que la réappropriation de ce nom-là, moi, j'étais très contente quand l'Assemblée générale a adopté ça, a voté en faveur de ça, mais il y avait beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Premièrement, les gens, ils disaient « Ah, c'est difficile à prononcer », puis il y a encore, étant donné que les gens de la communauté, plusieurs ont vécu un processus presque d'acculturation. Les gens de la communauté, les responsables au bureau de la Première Nation, ils doivent toujours expliquer, c'est fréquemment expliquer qu'est-ce que c'est le nom, pourquoi. Donc, moi, c'est un peu ma seule réserve là, par rapport à ça, c'est que je voudrais pas que les gens aient l'impression que vous parlez de nous autres.